Interview. Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Adèle Achahoug, médiatrice culturelle au sein de l'association de l'orchestre de chambre de la Drôme. Bonjour.
Bonjour.
Et Marc Verwisch.
Bonjour.
Vous êtes flûtiste à bec, entre autres, dont vous nous parlerez un peu ces divers aspects de flûte. Alors, vous deux, vous êtes ici pour nous parler de cet événement qui va se dérouler sur le Diwa, notamment avec Comte et Comtesse, donc une proposition qui va s'étaler sur 6 jours. Du 5 au 11 mai, et avec une soirée qui a débuté déjà lundi. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ce lundi dernier ?
Hier, on a eu la projection d'un film documentaire, un documentaire sur le compositeur Chelsea, qui est donc un des deux compositeurs à la une de notre programme Comte et Comtesse. Chelsea, donc ce documentaire qui s'appelle Le premier mouvement de l'immobile, qui a été réalisé par son neveu. Et donc, on a eu la projection de ce film sur Chelsea, suivi d'une discussion avec le public, avec justement le réalisateur du film.
Donc, un registre plutôt contemporain, on pourrait dire, ou moderne, puisque vous parliez de Chelsea.
Oui, c'est ça, mais c'est tout le projet de l'Orchestre de Chambre de la Drôme, de mettre aussi en valeur des compositeurs récents du XXe siècle. Donc, c'est le cas de Chelsea.
Ce qui avait eu lieu hier, et c'était où d'ailleurs ?
Ça s'est produit au théâtre de Die.
En plus de la projection hier soir, tout le monde est arrivé, tous les musiciens sont arrivés hier pour débuter le travail, hier à 14h. Voilà, donc il y a combien, 20 musiciens ?
Oui, c'est ça, une vingtaine.
Vous êtes actuellement l'orchestre de chambre de la Drôme en résidence, en quelque sorte ?
Oui, tout à fait.
Au théâtre ?
En mini-résidence de 3 jours de travail avant 4 soirs de concert qui seront aussi ponctués de moments de médiation avec nos médiatrices Irène Ontang qui est intervenue hier soir et Adèle Achahoug ici présente qui interviendra notamment demain dans les écoles en plus des concerts.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu en plus des 4 concerts. Donc on a notamment ce soir une soirée autour de la Comtesse de Die qui aura lieu à l'abbaye Valcroissant avec une table ronde, plusieurs invités, des moments musicaux aussi et des ateliers dans différentes écoles, donc les écoles de musique de Die, de Tain-l'Hermitage, de Colombier-le-Vieux et aussi de Saillon.
Il y avait 2 rendez-vous hier, hein, le lundi 5 mai, donc à 19h, on en a parlé, et à 20h30 également, avec un film projeté, le premier mouvement de l'immobile de Sebastiano Ayala Valva, et présenté donc par Irène Ontag, comme vous le disiez. Quel public s'intéresse à ce mouvement musical ?
C'est une très bonne question. Alors, Jacinto Chelsea, c'est une personne qui a la particularité d'être noble et d'avoir une fortune personnelle qui lui a permis de produire sa musique. Mais pour autant, elle est intéressante pour tout le monde. Et le projet de l'orchestre, je crois, c'est vraiment de faire vivre la musique dans des territoires où elle n'est pas forcément habituellement présente, notamment la musique contemporaine. Je crois que c'était vraiment le projet de Nicolas Misen, président de l'orchestre, en le créant. Et donc, je crois que ça peut intéresser tout le monde. C'est aussi le but d'avoir des médiatrices culturelles qui ont la fonction et la tâche de présenter les choses de façon accessible et de donner des clés d'écoute.
Et donc, Adèle, vous, en tant que médiatrice culturelle, c'est d'aller au-devant d'un éventuel public, notamment la jeunesse. Et pour vous, c'est aussi de porter à la connaissance ces arts.
Oui, c'est ça l'idée. Et c'est aussi surtout de pouvoir permettre à un public de rencontrer une musique qu'il n'aurait peut-être pas forcément l'occasion d'écouter. C'est, je pense, une musique qui se vit aussi. L'intérêt aussi de cette musique, c'est de l'écouter en direct. Et particulièrement la musique de Chelsea, c'est une musique qu'écouter sur un CD en faisant autre chose, peut-être a moins d'intérêt que de l'entendre jouer, de la voir jouer aussi par les musiciens de l'orchestre. Et du coup, c'est avant tout aussi de permettre au public de rencontrer cette musique et de se faire son propre avis aussi dessus.
Cette restitution musicale opérée par vous consiste en combien de musiciens pour proposer une soirée comme celle-ci?
Alors l'effectif total, je crois que c'est 16 ou 17 musiciens, des instrumentistes et 3 chanteurs. Et bien sûr, notre chef, James Kahan.
On va passer à cette soirée, à aujourd'hui, 18h30. Pour les auditeurs, vous avez largement le temps, Surdi, de pouvoir rejoindre donc l'abbaye de Valcroissant. Et pour cela, il y aura une soirée comtesse de Dee, avec Jacques Planchon, Dee Musica, Plea Lawrence, Kate Fletcher, Yusra Keshachai et Sylvain Riflet. Et donc, vous serez présente, Adèle,
oui,
pour présenter un peu cette soirée. En quoi consistera justement celle-ci?
L'idée, c'est de s'interroger un peu sur cette personne qui est la comtesse de Dee et toutes les énigmes qu'elle soulève, et du coup de pouvoir avoir différents artistes qui vont travailler sur cette personne. Donc notamment Yusra, qui est compositrice, qui a composé à partir de poèmes de la comtesse de Dee, et sa pièce sera jouée d'ailleurs dans nos concerts qui auront lieu donc de jeudi à dimanche. Sylvain Riflet, qui est saxophoniste de jazz, qui a aussi beaucoup travaillé sur la comtesse de Dee dans son projet qui s'appelle Troubadour. Kate Fletcher et Plea Lawrence, qui vivent à Dee et qui ont aussi beaucoup travaillé autour de la comtesse, qui ont fait tout un projet avec Dee Musica qui s'appelle Béatrice, et donc qui vont pouvoir nous montrer un petit peu tout leur travail. Et enfin, on aura Jacques Planchon, donc, qui est directeur du musée de Dee, et qui va nous parler de la comtesse, mais de tout son lien aussi avec la ville. Et ce sera aussi l'occasion de parler du buste de la comtesse de Dee, qui va pouvoir être remis à sa place. Il sera au théâtre, mais en tout cas, on va en parler. Ce sera au cœur des discussions, c'est sûr.
Le titre comte et comtesse, quel sens vous lui donnez à ces rendez-vous?
Il s'agissait de mettre en valeur deux personnages locaux. La comtesse de Dee, qui est peut-être, alors n'étant pas diois, je parle, ce que je dis est à prendre avec un grain de sel, qui est peut-être trop méconnue encore sur ce territoire, alors que c'est une des femmes artistes les plus anciennement connues, pas la plus anciennement connue, mais l'une des plus anciennes. Elle a écrit à la fin du XIIe siècle, et donc c'était important pour nous de jouer sa musique, de faire entendre sa poésie, ses textes. Et donc voilà pour la comtesse. Et le comte, c'est Jacinto Chelsea, qui a également résidé dans la région.
Et dont on fête les 120 ans cette année.
Voilà, et donc il s'agissait de mettre en valeur ces deux créateurs.
Quels sont les rôles de l'orchestre de chambre de la Drôme, hormis d'interpréter des compositions? Est-ce qu'il y a aussi une mission pédagogique?
Oui, je pense. C'est pour ça aussi que l'aspect médiation est très important dans le projet de l'orchestre. Ce que je disais tout à l'heure, donc cette idée de faire découvrir cette musique à un public, mais aussi, on a aussi certains ateliers où les enfants vont essayer eux-mêmes de chanter, essayer de jouer de la musique, enfin qu'eux-mêmes puissent découvrir une pratique artistique. Et ça fait vraiment partie du projet de l'orchestre de chambre de la Drôme, pas seulement sur cette saison, mais depuis le début de la création de l'orchestre.
Ces rendez-vous donneront lieu donc principalement à des entretiens ce soir?
Oui, c'est ça. Ça va se présenter sous la forme d'une table ronde, avec l'idée que tous ces artistes puissent discuter entre eux et nourrir la réflexion autour de la comtesse de Dee.
Mais qu'est-ce qui sera abordé justement dans cet entretien ce soir? Quels aspects vous allez proposer en discussion?
Je pense que déjà, l'idée, c'est de découvrir un petit peu la comtesse de Dee, mais surtout toutes les énigmes qu'elle soulève, parce que c'est, comme l'a dit Marc, une personne de la fin du XIIe siècle. Donc on a très peu d'informations aussi sur sa vie, donc il y a beaucoup de spéculations. Et surtout, la discussion va tourner autour de la création aujourd'hui et comment on peut s'emparer de cette musique aujourd'hui et en tirer un objet artistique et musical, et du coup de voir les différentes approches de tous les artistes qui seront là.
Parce qu'il n'existe pas de partition actuellement.
Alors il existe une partition de la musique de la comtesse de Dee qui nous est parvenue dans un manuscrit qui s'appelle le Manuscrit du Roi, qui contient des chants de trouvères, des chants de troubadours, et ce chant unique, en fait, on a la musique d'un seul chant de la comtesse de Die qui s'appelle Achantar, et pour lequel on a le texte complet et la musique. Donc là, on peut utiliser la mélodie qui nous est parvenue. Pour les autres, il y a 5 ou 6 autres textes qui nous sont parvenus, on n'a pas la musique qui va avec. Donc il y a un enjeu de reconstitution, de réinvention.
Cette partition, comment est-elle constituée? Puisqu'il y avait les chants cisterciens qui avaient inventé déjà une représentation de partition. Qu'est-ce que la partition d'aujourd'hui, à quel moment est-elle apparue avec ses notes, ses clés indiquées?
Là, à la fin du XIIe siècle, on a déjà une clé. Alors je crois que c'est des clés d'ut que certains auditeurs connaîtront peut-être, et clés de fa que tous peut-être peuvent connaître. Par contre, on n'a pas encore les 5 lignes. C'est une partition qui se présente avec 4 lignes. Et les notes ne sont pas encore rondes. Elles sont sous forme de petits carrés, parfois attachés les uns aux autres. Voilà, et de ces symboles, en fait, ces symboles, on arrive quand même à les lire plutôt bien avec nos connaissances du solfège moderne. On n'a pas besoin d'aller apprendre de zéro. La question qui est difficile, c'est celle de la lecture rythmique, parce qu'on ne notait pas encore les rythmes comme aujourd'hui. La notation qu'on a du rythme aujourd'hui, elle va apparaître plus tard, au moment de la Renaissance. Et les notations rythmiques précédentes sont toujours plus ambiguës. Donc là, il y a beaucoup de questions à se poser pour l'interprète.
Je voulais savoir si il y avait un côté peut-être hors des sentiers battus de la part de cette comtesse de Die pour ses créations.
Alors, les Traubeirits, du verbe Traubar, chercher ou trouver, plutôt trouver, comme les Trouvères au Nord, sont des femmes qui cherchent. Ce sont des artistes, ce sont des femmes qui s'affirment comme artistes à un moment où ça nous paraît pas une évidence avec notre œil d'aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'elle sort des sentiers battus? D'un côté, non, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la fine amour, de l'amour courtois, où elle reprend les thèmes amoureux avec son amant, etc., des choses qui peuvent nous paraître un peu convenues. Mais elle aborde ces thèmes qui peuvent être convenus avec une très grande liberté. Il y a un chant dans lequel elle dit qu'elle voudrait que ses hanches servent de coussin à la tête de son amant et qu'elle voudrait qu'il la rejoigne sous les draps. Littéralement. Voilà. Peut-être qu'Adèle, tu as quelque chose à rajouter là-dessus?
Non, oui, c'est ça. C'est vraiment cette liberté qui nous paraît un peu étrange pour une femme vraiment noble de cette époque. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve généralement chez les Traubeirits.
Adèle, pour cette activité de médiatrice, est-ce que vous vous êtes enrichie aussi de l'histoire de la musique pour justement appréhender un peu son contexte historique et sociétal de l'époque?
Oui, bien sûr. C'est important pour moi de faire beaucoup de recherches aussi sur les sujets que j'aborde pour pouvoir ensuite en parler avec des mots peut-être plus simples pour des gens qui ont moins l'habitude d'entendre parler de cette musique. Mais évidemment, j'ai besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour ensuite pouvoir les vulgariser.
Jeudi 8 mai, et là ça se passera au Théâtre de Die, au Théâtre Les Airs, avec un concert introduit par Irène Antong. Alors on peut peut-être présenter cette dame qui agit au sein de l'orchestre donc, de chambre de la Drôme et qui fait partie, je crois, de la nouvelle équipe qui s'est constituée.
Alors je crois qu'elle était là avant le changement d'équipe dirigeante de l'orchestre. Irène, ça fait un moment, je crois, qu'elle travaille avec l'orchestre. Que dire? Elle travaille comme médiatrice pour l'orchestre de chambre de la Drôme. Irène a une grande connaissance de la musique contemporaine, parce qu'elle travaille à Lyon pour le GRAM, générateur de ressources et d'activités musicales exploratoires, qui est basé à Lyon. Et Irène travaille également pour eux. Et c'est une structure qui soutient énormément la création contemporaine pour les instruments et aussi électroacoustiques. Et donc, de ce fait, Irène connaît bien la musique contemporaine. Et comme c'est un peu le fer de lance, je crois, de l'orchestre de chambre de la Drôme, que de promouvoir et le répertoire existant de la musique contemporaine et de passer commande à des compositeurs pour avoir de nouvelles pièces au répertoire, Irène était la personne la plus adéquate, je crois.
Ce jeudi 8 mai, à 17h, que pourra entendre le public ?
Alors la particularité du programme de cette saison, donc Comte et Comtesse, c'est que du coup on a invité avec l'orchestre de chambre de la Drôme des instruments qu'on a rarement dans l'orchestre de la Drôme puisqu'on va jouer de la musique de la Comtesse de Die. Et donc Marc et ses collègues vont jouer sur des instruments médiévaux. Donc on a une participation avec des instruments médiévaux, donc l'orchestre entier qui sera là. Et donc au niveau du répertoire, on a deux pièces de Chelsea qui vont être jouées, des pièces médiévales, donc de la Comtesse de Die ou d'autres troubadours, et deux créations, des commandes qui ont été passées par l'Orchestre de Chambre de la Drôme à deux compositrices, Yousra Keshai et Suzanne Roux. L'autre point commun qu'ont donc Chelsea et la Comtesse de Die, c'est qu'ils étaient aussi tous les deux poètes. Et donc les commandes qui ont été passées à ces deux compositrices sont sur des poèmes de Chelsea et sur des poèmes de la Comtesse de Die.
Marc Verwisch, vous étant flûtiste, vous intervenez à chaque représentation ?
J'interviens dans les quatre représentations cette semaine, puisque quatre fois le même programme. Sinon, par ailleurs, c'est la première fois que j'ai le plaisir et la chance de jouer avec cette formation. Voilà.
Alors, la flûte, elle est présente sur toutes ces compositions. Vous êtes plutôt flûte à bec, qui correspond mieux à l'époque peut-être de Béatrice de Die.
Alors, oui, moi avant tout, je suis flûtiste à bec. C'est mon instrument principal. Je joue aussi d'autres flûtes, la flûte à trois trous. Parfois accompagné d'un tambour joué avec l'autre main, puisque on peut jouer la flûte d'une main et tenir une baguette de l'autre. Je joue également des flûtes traversières anciennes en parallèle. Voilà, et la flûte à bec, alors elle est présente pour cette musique des troubadours, des troubaïrites, elle est probable en fait, parce que sur le Moyen-Âge, on est toujours dans la prospection et dans les interrogations de comment était faite cette musique, puisqu'on part d'une partition où on n'a que le chant. Or, on sait que les troubadours et les troubaïrites s'accompagnaient souvent d'instruments. La vielle à archer, qui est une sorte d'instrument de... La vielle à archer, qui est une sorte d'ancêtre du violon, et aussi la harpe. La flûte que je joue est souvent un instrument qui est rattaché au ménestrel, qui était des musiciens professionnels, itinérants, qui jouaient divers instruments. La flûte et tambour, des percussions, enfin voilà, je pense que chacun a une imagerie un peu du Moyen-Âge et de ça. Voilà, et donc mon instrument dans le programme est présent pour la partie Comtesse de Die et pour les nouvelles pièces qui ont été commandées spécialement pour notre effectif. Donc j'étais là à la flûte à bec, il y a une partie de flûte à bec. Pour Chelsea, pour la partie du Comte, Giacinto Chelsea, je ne joue pas puisque c'est joué sur les instruments de l'orchestre symphonique. Pas tous, mais sur quelques instruments de l'orchestre symphonique qu'on connaît aujourd'hui, dans lequel la flûte à bec n'a plus sa place. Ni la vielle à archer, ni le luth médiéval qui sera aussi présent au concert.
Je recevrai prochainement aussi le festival Goudula, à laquelle vous participerez également avec un concert introduit toujours par Irène Antang. Alors pareil, quel concert sera proposé pour ce vendredi 9 mai? Donc ça sera place de la Darès à 18h30.
En fait, c'est le même programme. Ce programme donc, qui est monté par l'orchestre et par tous les instrumentistes depuis lundi, qui va être joué donc, à quatre reprises pendant le week-end. Donc, le même, à chaque fois, ce sera le même programme qui sera présenté.
Donc, pour Grenoble également, samedi, et à Tournon-sur-Rhône pour dimanche.
Oui, c'est ça, exactement.
Cet orchestre actuellement de chambre de la Drôme, vous disiez être à peu près 16 ou 17 musiciens ou plus?
Pour ce programme, pas plus.
Pas plus, mais il y a quand même une équipe autour de ce projet avec des musiciens qui sont en constance présents.
C'est un orchestre qui fonctionne par projet, donc en fonction des besoins des pièces, sont invités les musiciens nécessaires. Il n'y a pas de permanent. Cependant, je crois que l'orchestre est quand même fidèle à ses musiciens, donc il rappelle les mêmes qui reviennent régulièrement.
Oui, il y a plusieurs musiciens qui ont quand même qui font des projets avec l'orchestre depuis 3 ans, qui ont fait presque toutes les sessions. Il y a quand même plusieurs personnes qui reviennent très régulièrement.
Et vous vous retrouvez régulièrement aussi pour vous mettre au diapason, si on peut le dire, de réinterpréter des compositions?
Eh bien non, c'est un principe de résidence.
Oui.
Donc tout le monde arrive, on travaille plusieurs jours, c'est très intense, parce qu'il faut aller assez vite, puisqu'on ne s'est pas vu pendant des semaines et des semaines. Et d'un seul coup, il faut monter un programme avec des musiques qui sont souvent un peu difficiles à jouer, mais qu'il faut défendre. Et ça marche, mais c'est assez intense. En quelques jours, là, en trois jours de répétition, il va y avoir une heure de programme de montée.
Il y a aussi des chanteurs. On peut parler de la soprano Clémence Poussin. Il y aura le mezzo-soprano Camille Fritsch, le baryton Christian Hone. Et ensuite, il y a cette direction dont vous avez cité James Caran et la médiation opérée par Irène. Donc, comment se prépare justement ce travail, notamment pour cette représentation qui aura lieu donc au théâtre ce jeudi? Vous êtes en train d'y travailler. Il y aura ces chanteuses ou chanteurs lyriques.
Je pense que déjà, les programmes sont élaborés. Il faut penser des programmes qui soient où les pièces ont un rapport les uns avec les autres. Et ensuite, chaque musicien travaille aussi de son côté ses partitions. Chacun prend le temps d'écouter les pièces, de travailler dessus. Et ensuite, du coup, comme le disait Marc, il y a vraiment trois jours de résidence très intense où enfin tous les musiciens peuvent se retrouver pour travailler ensemble.
Donc, si je comprends bien, vous êtes un orchestre qui travaille un peu séparément, mais vous établissez quand même des rapports, des liens hors de ces périodes de résidence pour peut-être vous conseiller ou vous éclairer sur une certaine manière.
Ah, bien sûr, il n'y a pas que ces trois jours de travail.
Oui.
Ce projet, je crois, a commencé à se mettre en route il y a un an.
Oui.
Voilà, quand le président de l'orchestre a décidé, je veux faire quelque chose qui inclut la comtesse de Die et Jacinto Chelsea dans le même programme. Et c'était il y a un an, en mai 2024, que ça a commencé à se mettre en route. Alors, il y a eu des rendez-vous de travail pour choisir le répertoire. Alors, moi, je peux parler pour ce qui concerne la musique médiévale. J'ai travaillé de mon côté pour choisir les pièces, pour les sélectionner, pour la remise en musique de textes de la comtesse qui n'étaient pas en musique, pour pouvoir les interpréter. Donc ça, c'est du travail qui a été fait en amont. Et puis avec les musiciens Martin Billet, Camille Fritsch, Colin Heller, qui sont aussi dans la partie médiévale du programme, on s'est beaucoup appelé en amont, on a beaucoup discuté de ce qu'on allait faire. Voilà. Ensuite, il y a tout un travail de préparation pour avoir les lieux, pour avoir les concerts qui sont programmés, pour préparer la régie, pour avoir les musiciens disponibles. Et ça, c'est tout un travail qui est porté par l'équipe plus permanente de l'orchestre.
Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on a deux créations dans ce programme. Donc il y a deux compositrices qui ont dû composer, écrire des pièces spécialement donc pour l'orchestre de chambre de la Drôme, avec cette nouvelle formation, donc avec les instruments médiévaux intégrés, et les chanteurs et les chanteuses. Et composer une pièce, forcément, ça demande aussi beaucoup de temps. Donc les commandes aux compositrices ont été passées il y a un an pour pouvoir avoir les partitions prêtes plusieurs mois en amont des premières répétitions collectives de l'orchestre.
Une partition est destinée aux musiciens, certainement, pour chaque instrument, mais aussi à la partition du chef d'orchestre, il y en aura un, où là sont regroupés tous les instruments. C'est un gros travail de construction, de synchronisation aussi à établir sur une feuille.
Oui, je pense que surtout le chef d'orchestre, lui, fait un gros travail en amont une fois qu'il a la partition, puisqu'il n'a pas la possibilité d'avoir tout de suite les musiciens et les musiciennes devant lui. Il faut qu'il imagine à quoi va ressembler cette musique, qu'il fasse des choix, quels instruments mettre en valeur, comment faire travailler justement l'orchestre. Donc lui a vraiment un très grand travail en amont pour s'imprégner de toute cette musique qu'il peut seulement lire et qu'il ne peut pas écouter puisque la pièce n'a encore jamais été jouée.
Et justement, s'opère-t-il un échange entre ce chef d'orchestre qui prépare hein, ce spectacle, cette représentation, et les musiciens pour peut-être demander conseil ou savoir ou peut-être indiquer aux musiciens sur quelle manière de jouer?
Alors ça a été un travail qui a été davantage fait avec les compositrices, notamment Yusra Keshai, qui a écrit une pièce qui s'appelle « Dis-nous tout » sur des poèmes de la comtesse, elle a pris la peine d'écrire à chacun des 16 ou 17 musiciens qui sont sur scène pour échanger sur ce qui est possible comme mode de jeu de l'instrument, parce qu'elle écrit des choses qui ne sont pas conventionnelles, qu'on ne fait pas forcément d'habitude, donc pour savoir si c'était bien possible pour l'instrument de chacun, et pour savoir en fait si ça convenait, s'il y avait des choses qui étaient impossibles, trop difficiles, et elle était vraiment très très à l'écoute, c'était, je pense, agréable pour tout le monde. Et donc cet échange, il s'est fait davantage avec les compositrices en amont qu'avec le chef. Le chef, je pense qu'il prépare sa partition de son côté et on le retrouve le jour de la première lecture. Chacun a travaillé de son côté et puis c'est le moment de la mise en commun quand tout le monde est présent sur le plateau du théâtre.
Ces deux compositrices proposent un travail qui traite d'une musique moderne, contemporaine, ou alors elles s'inspirent aussi donc, de cet aspect médiéval.
Justement, l'idée c'était de leur commander des pièces sur des poèmes. Donc la pièce de Yousra Keshai est sur un poème de la comtesse de Die. Et donc elle s'est vraiment inspirée plutôt du texte et de ce que ça sous-entendait pour elle. Et la pièce de Suzanne Roux, quant à elle, elle est sur un poème de Chelsea donc, qui s'appelle Ange du songe. Et donc elle a travaillé vraiment à partir de des poèmes. Enfin, c'était vraiment les poèmes, les points de départ des deux compositrices.
Et donc, cette réinterprétation musicale possible avec ces textes laisse aussi une ouverture à une musique qui soit de toute époque, ou alors il y a un registre plutôt précis.
Alors, je ne peux pas parler à la place des compositrices. Il faudrait leur poser cette question à elles. Mais je crois qu'avant tout, elles développent un langage qui leur est propre, qui contient bien sûr plein d'éléments de la musique contemporaine, des choses qui peut-être sont nouvelles, qu'elles ont trouvées, et puis des choses qui sont empruntées à d'autres choses plus anciennes, sans doute. Pour la pièce de Yousra Keshai, je crois qu'on se trouve quand même dans un langage assez contemporain.
Qu'est-ce qu'on pourrait définir ? Bon, il y a Edgar Varèse hein, qui a quand même bousculé un peu les conventions avec l'utilisation d'engins qui ne sont pas forcément musicaux. Est-ce qu'il y a aussi cette recherche ou de découverte de sonorités nouvelles ?
C'est un programme qui contient beaucoup de sonorités, sinon nouvelles, extrêmes. Notamment Chelsea, avec une pièce qui s'appelle Yamaon. C'est celle-là qui est pour ensemble de basse, n'est-ce pas Adèle ?
Oui, c'est ça.
Oui.
Pour la suite de la saison, pour l'orchestre de chambre de la Drôme, il y aura d'autres rendez-vous hein, qui sont déjà fixés pour juillet. Ça sera peut-être l'occasion pour vous de repasser nous voir, vous ou d'autres musiciens. Et vous avez un site internet également qui s'intitule donc Orchestre. Alors, ocdrome.fr, hein, où oui. On pourra découvrir la saison qui s'intitule Déjanté hein, pour cette année. Et il y a aussi ses partenaires pour cette organisation, les Amis des Arts et du Musée. Il y aura le Théâtre Les Heures. Il y a aussi le Centre National de la Musique qui vous soutient. En quoi ça, quel est le soutien de ces centres, par exemple, pour des musiciens comme vous ?
Eh bien, tous ces partenaires ont pour fonction pour l'orchestre de le soutenir, notamment financièrement, pour lui permettre de fonctionner. Voilà, parce que l'orchestre fonctionne grâce en partie à des subventions et également en partie à sa billetterie. Et c'est très très important pour soutenir la création, pour soutenir des choses qui sortent des sentiers battus, qui ne sont pas toujours évidentes, qui ne sont pas vouées à avoir un succès commercial immédiat, mais qui peuvent plaire, qui peuvent intéresser, qui peuvent concerner et élargir les horizons de tous. C'est très important d'avoir des soutiens publics.
On peut les réannoncer. Donc pour ce soir, hein, au 6 mai.
Oui, donc ce soir, la soirée autour de la comtesse de Die à l'abbaye Valcroissant. Ensuite, jeudi à 17h au théâtre de Die, donc qui sera le premier concert. On enchaîne le vendredi à 18h30 à Saillant, samedi à 17h à Grenoble, salle Messiaen, et dimanche à 17h à Tournon-sur-Rhône, à l'église Saint-Julien. Voilà, ça, ce sera les quatre concerts donc, de notre programme Comte et Comtesse.
Eh bien, Adèle Aschenhoug et Marc Verwisch, je vous remercie toutes d'être venues sur Air d'Ivoire pour nous parler donc, de ces soirées proposées par l'orchestre de chambre de la Drôme. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, à vous aussi.
Au revoir. Good.